Vous écoutez On lit pour vous.
Pour ou contre les écouteurs au bureau? Un texte de Maude Goyer paru le 2 juin 2026 dans la presse. Dans de nombreux bureaux, les écouteurs sont devenus aussi courants que les ordinateurs portables et les tasses à café. Musique, balado, bruit blanc. De plus en plus de travailleurs s'isolent pour mieux se concentrer. Mais derrière ce geste banal se cache parfois un malaise bien réel dans les équipes. Les écouteurs sont-ils devenus le nouveau « ne pas déranger » du bureau? Depuis la pandémie et la montée du travail hybride, nombre de travailleurs cherchent à retrouver au bureau le calme et la concentration du télétravail. Résultat, dans les espaces ouverts, les écouteurs se multiplient. Je les porte en déjeunant, je les porte dans le métro, je les porte en marchant, raconte Léa Trudel, chargée de projet de 29 ans. Alors oui, ça m'arrive de les porter au bureau, mais pas pendant mes pauses ni pendant le lunch. Pour certains, ils sont devenus un outil de productivité essentiel. Pour d'autres, ils envoient plutôt un message de fermeture ou de désengagement. Ça peut être perçu comme « je ne suis pas disponible pour toi » ou « je ne veux pas être en relation », dit Julie Carignan, psychologue organisationnelle et associée directrice de la firme conseil Humance. Le problème, c'est que les intentions ne sont pas toujours claires. La personne met peut-être ses écouteurs simplement parce qu'elle doit se concentrer sur une tâche exigeante, mais les collègues peuvent l'interpréter autrement, explique-t-elle. Concentration et interruption. Pour François Courcy, professeur titulaire du département de psychologie de l'Université de Sherbrooke, les écouteurs sont surtout une contre-mesure plausible aux interruptions constantes qui rythment désormais les journées de travail. Le travailleur moyen peut être joint de 11 façons différentes, souligne-t-il. Les canaux de communication comme les courriels, les textos, Messenger, LinkedIn, le cellulaire ou la porte de bureau se sont multipliés. Il cite une recherche de 2021 réalisée par Microsoft 1 qui avance qu'un travailleur interrompu prendra entre 12 et 25 minutes pour revenir à une pleine concentration. Beaucoup de gens sont sous pression et cherchent des moyens de protéger leur concentration, note-t-il. Dans ce contexte, les écouteurs deviennent une façon efficace de réduire le bruit ambiant, les interruptions et l'attention fragmentée. J'ai un déficit d'attention, confie Marco. Marco a témoigné sous le couvert de l'anonymat par crainte de réaction de ses collègues. Gérant dans un entrepôt du secteur manufacturier à Montréal. Quand j'ai du travail administratif à faire et que je dois être assis longtemps devant mon ordinateur, porter des écouteurs, ça m'aide. Des habitudes qui changent. Les experts observent une différence générationnelle. Les jeunes ont grandi avec ça, note Nathalie Lacombe, coach et conférencière en mieux-être organisationnel. Des étudiants ont développé des habitudes de travail avec coquilles ou écouteurs pendant leurs études. C'est le cas de ceux à qui on a accordé des accommodements scolaires liés à la concentration ou à l'anxiété. On est en train d'éduquer des jeunes à apprendre dans des environnements sans interruption, note François Courcy. Ensuite, ils arrivent sur le marché du travail avec cette attente-là. Mais le bureau demeure aussi un espace social et collaboratif, rappellent les spécialistes. On ne peut pas être continuellement interrompu, mais on ne peut pas non plus être inaccessible 8 heures par jour, résume Nathalie Lacombe. Le risque, selon elle, est de créer des équipes où chacun travaille dans sa bulle, sans spontanéité ni échange informel. Le travail, ça ne consiste pas seulement à produire individuellement, dit-elle. C'est aussi contribuer à l'équipe, collaborer, échanger des idées. Clarifier les attentes. Faut-il interdire les écouteurs au bureau? Pas nécessairement. mais il faut encadrer leur utilisation. Certaines organisations ont d'ailleurs commencé à adopter des politiques internes ou des lignes directrices à ce sujet. Les gens sous-estiment souvent l'impact que les écouteurs peuvent avoir sur leurs collègues, indique Julie Carignan. Selon elle, les gestionnaires gagnent à ouvrir rapidement la discussion plutôt qu'attendre qu'un malaise s'installe dans l'équipe. Dès qu'on entend des petites phrases comme « Ah, elle, je ne veux pas la déranger, elle a ses écouteurs », ça vaut la peine d'en parler, conseille-t-elle. Même dans une petite entreprise, une simple conversation d'équipe peut suffire. Le professeur François Courcy suggère par exemple de créer une charte d'équipe pour clarifier les règles de fonctionnement. À quel moment les écouteurs sont acceptés, dans quel contexte et comment signaler qu'on reste disponible malgré tout. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut se parler et bien baliser l'utilisation. L'objectif n'est pas de diaboliser les écouteurs, mais plutôt de trouver un équilibre entre concentration, collaboration et disponibilité. Les écouteurs sont surtout un révélateur de quelque chose de plus grand, croit Julie Carignan. Les équipes sont encore en train de redéfinir leur façon de travailler ensemble. C'était « Pour ou contre les écouteurs au bureau », un texte de Maude Goyer, paru le 2 juin 2026 dans la presse.
Pourquoi les parents ne veulent plus de garçons? Un texte de Marie Paris, paru le 21 mai 2026 dans le magazine Urbania. Pas trop déçu? C'est ce qu'Antoine et sa conjointe se sont fait demander quand ils ont annoncé à leur entourage qu'ils attendaient un deuxième garçon. Une collègue m'a même demandé si on allait se réessayer pour une fille, se rappelle le jeune père. Des réflexions qui sous-tendent implicitement que, quitte à être parent, tout le monde préfère avoir une fille. Une préférence surtout observée dans les pays riches. Au Japon, par exemple, les couples qui ne souhaitent avoir qu'un seul enfant espèrent que ce soit une fille, rapporte The Economist. Les Américains plus enclins à avoir davantage d'enfants ont en général des aînés de sexe féminin. Ils continueraient donc d'essayer d'avoir un garçon. Quant aux couples adoptants, ils ont tendance à payer davantage pour une fille. Dans le cas de recours à la fécondation in vitro et de sélection du sexe de l'embryon, quand c'est légal de le faire, les couples optent de plus en plus pour des filles. Résultat, on comptait 1,6 million de naissances de filles de moins par rapport au ratio naturel, 100 filles pour 105 garçons dans le monde en 2000, mais plus que 200 000 en 2025. Plus violent et moins bon à l'école. Si on hésite encore à parler de préférence pour les filles, on parle d'un déclin de la préférence pour les garçons. Cela est notamment dû à l'affaiblissement des préjugés associés au sexe fort. Un homme compte plus qu'une femme. Il poursuit la lignée familiale, etc. Mais aussi à certaines associations, notamment avec la violence, comme l'affirme le New York Times. Ainsi, les garçons sont plus susceptibles que les filles d'avoir des ennuis. Par exemple, à l'échelle mondiale, 93% des détenus sont des hommes. Des statistiques qui résonnent fort, surtout à l'ère du mouvement MeToo et du procès Pilico. Marie-Christine Brault, professeure au département de sociologie de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la sociologie historique de l'enfance et de la famille, explique. Alors qu'on sort d'une période de discussion très intense sur les violences à caractère sexuel, est-ce qu'on ne devrait pas être encore plus inquiet d'être parent de filles? Selon elle, ses arguments autour de la violence associée aux garçons restent dans une lecture genrée des enfants. On pense que genre et sexe sont liés et on oublie l'aspect socialisation qui est déterminant dans la création d'un genre, insiste la professeure. La norme sociale est encore très ancrée, alors que ce qu'on associe au genre masculin ou féminin est issu d'une construction. On a en effet tendance à socialiser un individu de sexe masculin à être un garçon avec certaines caractéristiques. Moi, j'ai deux garçons très gentils et relax, et on me dit souvent hey, « tes fils ne sont pas comme des garçons typiques, agressifs et hyperactifs ». Ça me décourage. À l'argument de la violence s'ajoute celui du retard scolaire, alors que dans les pays riches, 54 % des jeunes femmes ont un diplôme d'études supérieures contre 41 % des jeunes hommes, selon le rapport « Education at a Glance 2024 » de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. On peut également mettre cette statistique en parallèle avec le livre blanc publié par le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, « Ceux qu'on échappe », qui explique que le système scolaire québécois à trois vitesses accentue les écarts de réussite entre les filles et les garçons au détriment de ces derniers. Si certains pouvaient autrefois préférer avoir un garçon en projetant qu'il réussirait mieux socialement et gagnerait un meilleur salaire, augmentant ainsi ses chances d'entretenir ses parents vieillissants, aujourd'hui, les filles réussissent tout autant, voire mieux, et accèdent à de meilleurs métiers que leurs aïeules. Une parentalité de performance? La préférence pour une fille vient aussi souvent de construction sociale. Par exemple, on associe les femmes au fait de prendre soin, notamment de parents âgés. On peut noter ici qu'entre le garçon d'autrefois qui entretient financièrement ses parents et la fille d'aujourd'hui qui s'occupe d'eux physiquement, l'idée de faire des enfants en pensant assurer ses vieux jours reste toujours présente. D'aucuns croient aussi qu'une fille est plus facile à élever qu'un garçon. Comme on socialise une fille à être plus calme, plus attentionnée, à être une figure de soin, etc., on pense que le fait d'avoir une fille pourrait faciliter notre parentalité, analyse Marie-Christine Brault. On dit de plus en plus qu'être parent est un métier difficile et on promeut beaucoup les normes d'une bonne parentalité. Le parent est alors crédité pour tout ce qui va bien chez son enfant, ce qui nous amène à vouloir performer notre parentalité. Est-ce qu'on a l'air d'être un meilleur parent quand on a une fille? C'est pas parce qu'on a une fille qu'elle sera automatiquement plus calme et inversement pour un garçon. On a trop tendance à biologiser des différences qui sont sociales. Il faut que les parents comprennent que c'est la manière dont ils élèvent leurs enfants qui produit un certain type de personne et non leur sexe, tranche la sociologue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est possible d'élever un petit garçon sans masculinité toxique. Deuil du genre. On entend aussi de plus en plus parler du deuil du genre. Lorsqu'un ou les deux parents démontrent une déception en apprenant le sexe de leur futur bébé. Cela arrive dans un contexte où la parole autour de la parentalité se libère, par exemple sur le fait d'avoir même eu des enfants. Marie-Christine Brault exprime une crainte, alors que la technologie autour de la procréation est de plus en plus sophistiquée et accessible. Si le genre est si important pour les parents, le développement du marché de sélection d'embryons risque de s'accélérer, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. En effet, un déséquilibre dans le ratio des sexes, peu importe dans quel sens, a des conséquences. Des études ont par exemple établi un lien entre la grande proportion d'hommes et l'augmentation de la criminalité violente en Chine. La tendance à préférer les filles qu'on observe dans les pays riches souligne en outre un comportement de consommateur dans la parentalité. On a aujourd'hui le luxe de pouvoir contrôler tellement de choses, ou presque. Si on veut un bébé, quand on le veut, etc. Maintenant, on ne veut plus juste un enfant, on veut un enfant qui soit une fille. Que les préjugés envers les filles disparaissent est une bonne nouvelle. Mais il est dommage qu'ils soient remplacés par d'autres envers les garçons. Et si on n'est pas prêt à élever l'un ou l'autre, peut-être vaudrait-il mieux ne pas avoir d'enfants du tout. C'était « Pourquoi les parents ne veulent plus de garçons ?» Un texte de Marie Paris, paru le 21 mai 2026 dans le magazine Urbania.
Le belgo change de main, mais veut conserver sa vocation artistique. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir. Le belgo, l'un des principaux pôles de l'art contemporain à Montréal depuis près de 40 ans, change de main. Après avoir appartenu
pendant plus d'un demi-siècle à la famille Dubrovski, l'immeuble du coin Sainte-Catherine-Ouest et de Bleury a été acquis par la société immobilière Avenir, qui affirme vouloir préserver sa vocation culturelle et artistique. Le nouveau propriétaire assure vouloir inscrire son arrivée dans une logique de continuité et maintenir le caractère artistique du lieu. Une trentaine de galeries, d'ateliers et d'espaces de création sont regroupés sous ce toit. Une étude patrimoniale est en cours afin d'orienter la requalification du bâtiment, explique Geneviève Richard, consultante en patrimoine associée au projet. En entrevue au Devoir, elle indique que les interventions envisagées demeurent limitées afin de préserver des loyers abordables pour les occupants. Les fenêtres seront notamment remplacées et une nouvelle signalisation doit permettre au public de mieux se repérer. Pour l'instant, ce sont surtout les initiés qui connaissent la richesse des galeries sur place, dit-elle. On va faire des interventions pour mettre en valeur les galeries qui sont là. La société immobilière Avenir est liée à la famille Lieberman, active depuis des décennies dans les secteurs du textile et de l'immobilier à Montréal. À la tête du groupe L'Amour, la famille a développé plusieurs marques de vêtements populaires, notamment Penmans, BL Intimates, Trimfit et Nouvelle Seamless. Elle possède également plusieurs immeubles dans le secteur industriel de la rue Chabanel. Aujourd'hui associé aux arts visuels, le Belgo fut pourtant conçu au départ pour le grand commerce montréalais. L'édifice ouvre en 1912 pour accueillir le magasin à rayons Scrogi, spécialisé dans la vente par catalogue à l'échelle du Dominion. À cette époque, la rue Sainte-Catherine-Ouest devient l'axe des grands magasins anglophones d'une métropole en pleine expansion. Montréal compte alors davantage d'habitants que Toronto, et Morgan, Ogilvy et Carsley rivalisent pour attirer une clientèle urbaine en plein essor. Le bâtiment, dessiné par l'architecte américain David Jerome Spence dans l'esprit de l'École de Chicago, fait partie des premiers édifices montréalais construits en béton armé, un matériau alors nouveau. Après le déclin du commerce de détail, les lieux sont investis pendant des décennies par l'industrie du textile. Confection de complets, chemiseries et fourrures occupent les étages. Le tournant artistique s'amorce au début des années 1980, alors que le secteur traverse une période de dévalorisation économique. Les loyers modestes attirent d'abord des créateurs et des écoles de danse. En 1981, Linda Rabin y installe son école de danse moderne, future École de danse contemporaine de Montréal. Aujourd'hui, même si des studios de danse occupent encore certains espaces, les grandes écoles n'y sont plus. En 1986, René Blouin et Chantal Boulanger ouvrent les premières salles d'exposition dans d'anciens espaces industriels laissés vacants par une manufacture de chemises abritée par le bâtiment. L'ouverture du Musée d'art contemporain à proximité, l'arrivée de Musique Plus et la transformation progressive du secteur accélère ensuite la mutation du bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était « Le Belgo change de main, mais veut conserver sa vocation artistique ». Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir.
Accro au bitume et à l'essence. En sous-titre, nos économies sous pression sont prisonnières d'un modèle à la dérive. Un texte signé François-William Croteau, qui est PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine et professeur et chercheur associé. Son texte est publié dans Le Devoir du 15 avril 2026. Jeudi se tiendra la 5e édition du Sommet Climat Montréal, un rendez-vous annuel réunissant des représentants politiques, des organisations privées et publiques, du monde du milieu communautaire, de l'économie sociale et de la société civile, entre autres. Tous ces gens seront réunis pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour agir collectivement sur les effets du dérèglement climatique dans la grande région de Montréal. Ce sera aussi l'occasion de faire le bilan de l'action climatique des 5 dernières années. Beaucoup de gestes ont été faits en son nom et de belles initiatives ont vu le jour. Le bilan est somme toute positif, tant du côté des gouvernements de proximité que des acteurs privés et de la société civile. Mais ce qui dominera les discussions, ce sera le recul généralisé des États et l'affaiblissement de la démocratie climatique mondiale. Alors que les gouvernements de proximité vivent directement les impacts des aléas climatiques et tentent de garder la tête hors de l'eau, les États font marche arrière dans toutes les directions, invoquant le contexte économique et la sécurité mondiale. C'est comme si tout avait été parfaitement synchronisé. On pourrait croire qu'ils attendaient tous ce moment précis pour reculer et trouver une excuse en or pour justifier leur retour en arrière. Le narratif est précis, presque trop bien orchestré pour avoir de l'air improvisé. Des tarifs douaniers jusqu'aux décisions climato-négationnistes trumpiennes, en passant par les conflits armés et la fermeture du détroit d'Hormuz, tout devient prétexte à justifier l'injustifiable. Accro au bitume et à l'essence, nos économies sous pression et prisonnières d'un modèle à la dérive s'accrochent aux chimères d'une prospérité déjà révolue. N'en déplaise à ceux qui croient encore aux lois quasi-divines du marché, les coûts réels de l'inaction ont depuis longtemps dépassé l'anecdotique. C'est ainsi que la hausse du prix du pétrole et la multiplication des nids de poules montréalais sont sur toutes les lèvres, tandis que les bourgeons tardent à réapparaître. Tout pousse à la morosité ce jour-ci, avec cet hiver trop long et ce printemps boudeur qui retarde l'ouverture des terrasses. S'il y a bien un symbole du renouveau à Montréal, c'est le retour des tables et des chaises devant les bars et des restaurants. Encore faudrait-il d'abord colmater certains cratères urbains pour s'y rendre. Bien que le Canadien de Montréal, en série, nous redonne toujours une nouvelle énergie collective. Il faut admettre que cette année, les rues de la métropole affichent les signes d'une véritable hécatombe routière, du jamais vu. Entre la hausse du prix du pétrole et des routes en état de guerre, tout le reste semble passer par-dessus bord. Chose certaine, si nous avions amorcé la transition écologique et énergétique dès nos engagements il y a plus de 20 ans, nous serions aujourd'hui beaucoup moins vulnérables à la hausse du prix du pétrole et nos routes seraient sans doute en meilleur état. En effet, il ne s'agit pas seulement d'investir dans l'entretien, mais aussi de réduire le nombre de véhicules qui circulent sur nos infrastructures à bout de souffle. Les investissements massifs en transport collectif au Québec ayant sans cesse été reportée, alors que l'Ontario a fait le choix inverse depuis des décennies, l'écart devient frappant. Depuis plus de 10 ans, le Québec demeure largement dominé par les investissements routiers, avec plus des 2/3 des investissements en transport qui y sont consacrés en moyenne. Et dans le dernier budget, la tendance s'accentue. Près des 3/4 des sommes vont au bitume. À l'inverse, l'Ontario maintient une trajectoire constante en faveur du transport collectif, avec environ les 2/3 de ses investissements dirigés vers celui-ci depuis plus d'une décennie, même sous le gouvernement de Rob Ford. Ce choix n'est pas sans conséquences. En concentrant ses efforts sur le transport collectif et le maintien des infrastructures existantes, l'Ontario se retrouve avec des routes généralement en meilleur état. Pendant ce temps, le Québec continue d'étendre son réseau routier, augmentant la pression sur ses infrastructures, creusant son déficit d'entretien et continuant de rêver à un troisième lien à Québec. Le Québec compte déjà environ 17 km de route par 1000 habitants contre 15 en Ontario, un écart qui se traduit par des coûts d'entretien plus élevés pour chaque contribuable. Pourtant, le parc automobile y est à peine plus important, avec environ 558 véhicules par 1000 habitants contre 547 en Ontario. C'est un modèle coûteux, difficile à entretenir et qu'on continue pourtant d'étendre. Rappelons qu'au Québec, le parc automobile croît plus rapidement que la population, alors qu'en Ontario, c'est l'inverse. À la veille de ce 5e sommet Climat Montréal, le constat est donc accablant. Après autant de recul, mon espoir pour les 5 prochaines années repose sur la détermination et la capacité d'action des gouvernements de proximité, des organisations et des entreprises privées locales, ainsi que de la société civile qui ont bien compris déjà qu'elles doivent agir maintenant pour s'en sortir. Cette ambition passe aussi par le fait d'investir davantage d'énergie et de ressources dans l'adaptation et la résilience de nos collectivités locales. En effet, notre voie vers un monde plus juste ne passe plus uniquement par la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi par notre capacité collective et individuelle à atténuer les impacts, directs et indirects, des dérèglements climatiques sur les populations les plus vulnérables et sur nos milieux de vie. Sur ce, bon sommet. Fin de ce texte de François-William Croteau, titré « Accro au bitume et à l'essence », publié dans Le Devoir du 15 avril 2026.